Bonjour à tous, donc je suis Raphaël Languyon-Ossel, je suis doctorant à l'Université Lumière Lyon 2 sous la direction de Philippe Pelletier et mon laboratoire s'appelle donc Environnement Ville Société et je travaille sur les politiques environnementales et de durabilité à Tokyo et dans les principales grandes métropoles japonaises. Alors l'intitulé de mon intervention aujourd'hui, vous la voyez, c'est Tokyo, ville globale, ville durable, la durabilité urbaine à Tokyo, pourquoi, pour qui, en se demandant non pas véritablement quelles sont les politiques de développement durable, même si je vais vous les présenter succinctement, mais de se demander pourquoi est-ce qu'elles sont mises en place au-delà du simple enjeu purement, on va dire, écologique. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Tokyo, voici les différents découpages que l'on peut retenir. Je vais uniquement utiliser le premier et dans une moindre mesure le troisième, c'est-à-dire les 23 arrondissements centraux de Tokyo que vous avez sur la gauche et, dans une moindre mesure, la mégalopole qui correspond en fait au très grand Tokyo. Alors, Tokyo s'organise comme suit, si on simplifie au maximum. Vous avez au sud-est une immense baie dont on recouvre petit à petit la surface par des terre-pleins, hein, qui sont une façon de gérer les déchets urbains, hein, et qui ne sont pas aménagés par manque de place, quoi qu'on ait pu en dire. Et puis vous avez une ligne ferroviaire qui délimite en quelque sorte l'hypercentre de Tokyo, que l'on appelle la Yamanote, où vous avez les principales gares qui sont les principaux centres névralgiques de l'urbanisme japonais, puisque l'urbanisme japonais est un urbanisme de gare, hein, bien plus qu'un urbanisme de place ou de rue, tel que l'on peut le voir en Occident. Alors, vous avez donc les principaux sous-centres urbains, hein, Shinjuku, Shibuya, etc. Et puis le CBD tel que l'on peut l'entendre dans une version américaine, c'est-à-dire autour de la gare centrale de Tokyo. Alors, au niveau de la croissance urbaine de Tokyo, vous avez en gros trois périodes. Vous avez les années 60-70, durant lesquelles le Japon entre dans la modernité industrielle occidentale, avec l'érection de Tokyo comme un pôle industriel asiatique qui transforme la ville en une espèce d'enfer urbain. Alors ensuite, vous avez les années 80 qui correspondent à l'érection de la ville globale, hein, avec la financiarisation de l'économie japonaise, l'envolée des prix fonciers qui, en quelque sorte, conduisent les habitants à habiter toujours plus loin du centre, hein, puisqu'ils n'ont plus les moyens de s'acheter ou même de louer des appartements, ce qui conduit à un deuxième enfer, hein, qui est l'enfer des transports, avec ces images de trains surfréquentés. Et puis, durant les années 90, hein, vous avez l'éclatement de la bulle foncière au Japon qui laisse l'économie japonaise exsangue avec une chute des prix fonciers dans les principales agglomérations, en particulier Tokyo, qui permet un retour des habitants dans le centre-ville, mais néanmoins qui jette l'opprobre sur l'image de la ville globale et de la globalisation à Tokyo, hein, et qui permet ensuite, dans les années 2000, de voir l'érection d'un nouveau modèle, hein, qui prend le relais de la ville globale, celui de la ville durable, avec, tel que le dit le gouvernement métropolitain en 2006, hein, l'objectif de faire de Tokyo la métropole la plus innovante, la plus compétitive et la plus attractive du monde du point de vue de la durabilité. Alors, l'enjeu de cette intervention est double, hein. D'une part, c'est de voir quelles sont ces politiques urbaines de développement durable, et d'autre part, surtout, de voir quels sont les enjeux derrière la justification écologique et environnementale. Alors, la mise en œuvre très rapidement du développement durable à Tokyo, elle est récente, hein, elle est concomitante de l'arrivée du gouverneur actuel qui s'appelle Shintaro Ishihara, qui arrive en 1999 et qui est toujours aux commandes de la ville. Et l'année tournante à Tokyo, hein, c'est 2006, avec deux textes fondamentaux dont vous avez les intitulés en anglais, hein, en particulier le plan de développement urbain sur 10 ans, hein, qui nous conduit jusqu'à environ 2012-2015. Alors, les enjeux sont doubles, hein, dans ces politiques de développement durable à Tokyo, hein, dans les années 2000. Hein, c'est d'une part améliorer l'environnement local, d'accord, avec des politiques de végétalisation, de contrôle des rejets, avec la qualité de l'air, de l'eau, etc. La qualité de vie, le paysage, la prévention des risques, hein, qui sont des thématiques classiques, et qui sont à destination essentiellement des habitants et des usagers internes de la ville. D'accord ? Et puis, une deuxième catégorie d'enjeux, hein, qui sont des enjeux de promotion d'une nouvelle compétitivité fondée sur ce qu'on appelle les éco-innovations. Alors, les éco-innovations, vous avez la définition en anglais. Hein, globalement, c'est tout ce qui, toutes les technologies qui permettent l'avènement d'une société, on va dire, environnementalement, soutenable. D'accord ? Et également avec un volet social assez important. Et dont les objectifs, comme vous l'avez ici dans ce rapport de l'OCDE, sont de faire du Japon l'une des économies les plus innovantes et les plus créatives du monde. Hein, et en particulier, ces éco-innovations visent à soutenir la montée de la puissance chinoise en maintenant une distance de sécurité technologique avec les principaux concurrents asiatiques. Alors, ces espaces privilégiés dans la mise en œuvre du développement durable, hein, même si ces mesures concernent tout Tokyo, vous avez des espaces privilégiés, et ces espaces privilégiés sont la plupart du temps l'hypercentre, hein, en particulier les bicentres, comme vous pouvez le voir sur cette carte, le CBD et le front de mer, hein, qui sont des espaces un peu classiques dans le développement de la durabilité. Et en particulier, donc, deux espaces sont intéressants. Le secteur Otemachi, Marunouchi et Yurakucho, qui constituent le CBD autour de la gare centrale de Tokyo, et le front de mer qu'on appelle le Rinkai Fukutoshin. Alors, en ce qui concerne le projet de CBD, il a été développé dans les années 2000 sous le vocable de ABC pour Amenity Business Core, et non plus CBD, hein, pour Central Business District. Ce qui montre, si vous voulez, le tournant environnemental. Pardon. Et ce projet vise le développement des aménités urbaines, hein, donc c'est surtout un projet paysager, le développement d'immeubles de grande hauteur écologique et la diversification des fonctions économiques. Donc c'est un peu une rupture avec, on va dire, l'urbanisme moderne. Et en ce qui concerne le front de mer, hein, c'est un peu encore plus intéressant, puisque vous avez une véritable stratégie de développement durable qui avait été, dans le projet de candidature aux Jeux Olympiques de Tokyo 2016, mise en valeur. Alors, il en reste encore des traces, hein, même si Tokyo a perdu le projet des Jeux Olympiques face à Rio de Janeiro. Et voilà, vous avez une vue d'artiste, où il s'agissait de faire du front de mer une vitrine de la durabilité environnementale à la japonaise, hein, mais qui ressemble assez fortement à ce qui se fait dans les villes européennes et américaines, qui étaient régulièrement citées à titre d'exemple dans ce projet, en particulier Londres, hein, évidemment. Alors, néanmoins, ces politiques de développement durable visent en quelque sorte le recyclage urbain des politiques mises en place dans les années 80, durant la bulle foncière japonaise, que l'éclatement de la bulle avait suspendu. Alors, c'est assez intéressant de voir que le développement durable prend le relais et s'inscrit dans la continuité des politiques qui avaient construit la ville globale dans les années 80, en recyclant un certain nombre de projets. Alors, j'insiste pas sur ce document, que de toute façon, vous aurez certainement lorsque les textes seront mis en ligne. Mais par exemple, en ce qui concerne le Central Business District autour de la gare centrale de Tokyo, il y avait un projet dans les années 80, en 1988, le projet Manhattan, de construire 60 immeubles de plus de 200 étages. Hein, et c'est en 2000, lorsque on a vu que le projet était irréalisable du fait de l'éclatement de la bulle foncière, que le projet a été réorienté en projet ABC pour Amenity Business Core. Donc vous voyez que la durabilité ici permet de relancer une opération laissée en suspens suite à l'éclatement de la bulle foncière et immobilière japonaise. De la même façon, et donc voilà, et c'est la même façon avec le front de mer, hein, qui devait être le nouveau téléport de Tokyo dans les années 90, et suite à l'échec de l'opération, hein, avec la baisse des prix fonciers, a été recyclé par le projet de Jeux Olympiques 2016, qui a ensuite donné lieu à des réalisations, même si le projet, du coup, comme je l'ai dit, a été avorté. Et lorsque l'on regarde à droite les plans de développement de la ville globale dans les projets du gouvernement métropolitain des années 80, on voit que les espaces sont strictement les mêmes que ceux des années 2000, visant à promouvoir le développement durable à Tokyo. Donc en fait, le développement durable a en gros trois enjeux à Tokyo. Hein, relancer les opérations urbaines des années 90, laissées en suspens par la bulle économique, hein, par le dégonflement de la bulle. Réaligner Tokyo sur les standards urbains des villes occidentales. Et réactiver le secteur de l'immobilier pour sortir la ville de la phase post-bulle. Alors, à ce titre, il est intéressant de voir que les années 80 et les années 2000 sont deux grandes périodes de dérégulation des règles de l'urbanisme au Japon. Vous avez, dans les années 80, la politique de renaissance urbaine en 86 du gouvernement Nakasone, qui permet de déréguler les règles de l'urbanisme au niveau des coefficients d'occupation des sols, au niveau des coefficients d'emprise des sols, au niveau des hauteurs maximum du bâti, etc. etc. Politique réactivée en 2001 par le gouvernement Koizumi, en même temps que se déploie la politique du développement durable urbain à Tokyo et au Japon. Alors, très rapidement, il faut revenir pour comprendre un peu l'enjeu de ces politiques de développement durable. Comment fonctionnait la bulle spéculative au Japon? Alors en fait, vous avez quatre facteurs qui permettent la bulle spéculative au Japon. C'est d'une part, en 85, les accords de Plaza qui permet l'envolée du yen, qui gonfle artificiellement les réserves des banques et des entreprises japonaises après environ 15 ans de balance commerciale positive, d'accord, au détriment du reste du monde. Vous avez ensuite le secrétariat d'État au territoire japonais qui surestime les besoins en bureaux de la capitale japonaise, hein, puisqu'il dit que Tokyo aura besoin de plus de 5000 hectares de bureaux dans les années 90, alors que les besoins réels étaient de 2000 hectares. Donc vous avez une explosion des liquidités financières, vous avez des besoins en bureaux surestimés, vous avez une baisse des taux d'escompte de la banque japonaise qui rend le crédit très peu cher, et vous avez les dérégulations des règles d'urbanisme du gouvernement de Nakasone qui font que vous avez des masses financières considérables qui investissent le sol et le foncier et l'immobilier au Japon. Ce qui aboutit à une envolée des prix fonciers et des prix immobiliers, les emprunts bancaires étant, si vous voulez, nantis sur le foncier, hein, qui permet d'alimenter la machine et donc de faire croître les prix de façon continue. Néanmoins, en 91, vous avez un retournement des marchés et vous avez la contraction des prix fonciers, vous le voyez sur la carte, hein, avec une contraction des prix fonciers au niveau des centres urbains, ce qui donne lieu à des faillites bancaires et suspend les projets urbains. Néanmoins, arrive le développement durable qui permet, je l'ai dit, de recycler les projets laissés en suspens et surtout de promouvoir la compacité urbaine qui permet de faire réaugmenter les prix en valorisant la compacité urbaine, ce qui permet de refaire marcher la machine financière, de relancer le crédit bancaire, de relancer l'activité immobilière et de relancer du coup l'économie japonaise. Et donc vous avez avec la ville compacte une stratégie foncière de la part de l'État pour relancer, si vous voulez, la machine financière, économique et bancaire japonaise, hein, sur la base du développement durable et de la ville compacte. Et en plus, si l'on regarde bien, les principaux terrains valorisés par la ville compacte appartiennent soit aux grandes entreprises immobilières, soit au gouvernement métropolitain, en particulier sur le front de mer, puisque les terres pleines sont aménagées par le gouvernement métropolitain, et donc du coup, valoriser la compacité urbaine permet d'augmenter le prix de ces terrains-là, et donc du coup, d'injecter des fonds dans les budgets municipaux, hein, en particulier à Tokyo. Et donc vous avez cette citation d'un chercheur japonais qui montre bien la corrélation entre les politiques urbaines durables et la relance de l'économie japonaise. Donc en fait, si on résume les différents enjeux de cette politique de la durabilité urbaine, vous avez deux grandes catégories d'enjeux. Vous avez les enjeux internes à la ville, hein, qui sont liés aux différents stades de développement, hein, tels que l'ont mis en relief Grossman et Krüger, avec la théorie des courbes environnementales de Kuznets, des enjeux liés à un faible niveau de développement qui sont liés à l'hygiénisme, la salubrité, des enjeux qui sont liés au stade industriel et donc du coup qui sont liés à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, au droit à l'ensoleillement, pardon, qui sont des enjeux développés dans les années 70 au Japon, et des enjeux de la société post-industrielle, la société de consommation, qui sont liés à la gestion des déchets, aux économies d'énergie, aux pollutions automobiles, qui sont les enjeux actuels. Et à chaque fois, les stades suivants n'éliminent pas les enjeux du stade précédent, mais déplacent, si vous voulez, le focus. Ça, ce sont les enjeux internes liés à la politique de durabilité, avec par exemple la politique des écotones au Japon, qui sont des politiques de gestion des déchets urbains. Et puis vous avez des enjeux externes. Et ces enjeux externes de la durabilité sont à destination du système métropolitain asiatique et permettent, si vous voulez, d'accroître l'attractivité et la compétitivité des métropoles japonaises, en particulier de Tokyo, qui espère ainsi garder son rang de centre de commandement du réseau d'Asie-Pacifique, du réseau urbain Asie-Pacifique. Alors, en conclusion, puisqu'il me reste une minute, pour résumer un peu ces différents enjeux de la durabilité urbaine au Japon, on peut dire, alors attendez, si j'arrive à prendre mon papier, que contrairement à la ville écologique, dont les objectifs étaient soit anti-urbains, soit fragmentés, en politique sectorielle, la ville durable relève d'une géopolitique et d'une véritable stratégie urbaine à travers l'environnement abordé sous les angles économiques et sociaux, mais bon, surtout économique au Japon, comme vous avez pu le voir. La ville durable à Tokyo permet en interne de s'affranchir d'un certain nombre de limites, règlement d'urbanisme et opposition habitante en sont les principales, au profit des grandes opérations de renouvellement urbain. Et objet d'une politique de pacification et de redynamisation des opérations urbaines en interne, objet d'une politique d'émancipation, d'attractivité et de compétitivité en externe, le développement durable à Tokyo relève d'une géopolitique caractéristique d'un soft power urbain qui font que les grandes métropoles, en particulier les grandes métropoles comme Tokyo, sont vouées sans doute à devenir des acteurs importants du dynamisme et de la gouvernance économique et environnementale au cours du XXe siècle. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Du XXIe siècle.